On va dire quelque chose sur le Megillat Esther. Cette Megillat Esther, elle est, à première lecture, incompréhensible. Tout le monde, il a la question, sans la exprimer. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de faire dans cette histoire de Pourim? Il y a un danger qui guette les Juifs. Haman, il veut exterminer le peuple juif. Il faut trouver une solution. Nous, quand Akadosh Baruch Hu, il veut liquider un voyou, un rachat, un danger, il veut tuer ce Haman. Bon, il était pendu, très bien. Il aurait pu mourir d'une autre façon aussi. Un monsieur, il marche dans la rue, il jette une peau de banane. Haman, il glisse dessus, il se cogne la tête et il meurt. Il peut envoyer un petit chien pour le mordre, un petit serpent. Il peut tomber d'un toit, il peut... Une tuile lui tombe sur la tête. Il ne manque pas des possibilités pour Akadosh Baruch Hu de liquider quelqu'un, un voyou. Mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de faire dans cette histoire de Megillah? Il fait que quoi? Que Esther devient la reine. Et elle doit se marier avec un goy. Une femme juive se marie avec un goy pour sauver le peuple juif. Une femme juive, religieuse, pieuse, et pas n'importe laquelle. Esther, c'est une des Sheva Neviot. Il y a dans le Klal Israël tout et pour tout sept prophétesses. Sarah Imenu, il y a Hana, il y a Rivka, il y a Devorah, Myriam et Esther. Donc Esther, c'est une des sept femmes les plus pieuses qui a existé dans le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il prend cette femme, il la oblige de se marier avec un goy. Pourquoi? Pour provoquer qu'Aman y sera pendu sur la potence, pour enlever le danger. Quel est le pshat? Mais qu'est-ce qu'il pense à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire ça? Il ne peut pas être une peau de banane, c'est un rue, c'est un petit accident de voiture. Il n'y avait pas d'accident, il n'y avait pas de voiture, il peut faire un petit accident de moto. Et quand il n'y avait pas de moto, ça reçoit un coup d'un cheval. Et quel est le problème? Mais quel est le problème d'Hachem? Nous, on avait été à sa place, on aurait agi autrement, non?
Ils auraient cru que c'était du hasard.
Hein?
Ils auraient cru que c'était du hasard.
Ils auraient dit que c'est dû au hasard. Maintenant aussi, ils peuvent dire que c'est dû au hasard. Pour pas qu'on dise que c'est au hasard. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu est obligé de prendre une femme de sa déquête pour la marier avec un goy, pour que les gens ne disent pas que c'est un hasard. Vous ne pouvez pas faire autrement. Pour pas qu'il y ait un hasard, on peut faire autrement, je ne sais pas. Et au moment qu'il écrit le décret d'exterminer les Juifs, il y a dans le stylo un explosif qui explose dans la figure et il meurt. Et à ce moment-là, il y a une tuile qui tombe. Pour montrer que ce n'est pas un hasard, il a besoin de faire un tel drame. Esther se marie avec un goy. Quel est le sens? En vérité, est-ce qu'elle a fait un avéra ou elle n'a pas fait d'avéra? La Gemara pose la question. Est-ce qu'elle avait le droit de se marier avec un goy? Alors, elle était en danger de mort. Elle était en danger de mort, évidemment. Si elle dit non à Achashverosh, Achashverosh la tue. Qu'on va acheter une fois à refuser de venir chez lui, eh ben, elle se fait tuer. Donc si Esther dit non, je ne rentre pas dans le palais royal, eh ben, Achashverosh la tue. Donc elle était en danger de mort. En danger de mort, on a le droit, à condition qu'on reste passif, qu'on ne fait rien. Achashverosh fait tout seul, elle ne fait rien. D'accord. Mais quand même, c'est pas très joli. Qu'est-ce qu'elle a besoin de faire ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il amène dans cette situation? En vérité, le texte, il dit « Ubechol yom vayom Mordechai mitalech בחצר בית המלך לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. Chaque jour, Mordechai se promenait dans la cour du palais royal, à la porte de la cour. La date est Shalom Esther. Il se renseignait comment elle va Esther. Umaya Aseba, qu'est-ce qu'on a fait avec elle? Mais qu'est-ce qu'il avait peur? Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Elle est devenue la reine, ça va. Qu'est-ce que tu demandes tous les jours de Shalom Esther? Est-ce que tu as besoin de dentiste? T'as besoin de médecin, t'as mal à la tête, t'as besoin de paire de chaussures. Qu'est-ce qu'il demandait tous les jours? Le rabbin, il se promène, c'est pas très joli, le rabbin, tous les jours, il demande une nouvelle de cette fille. Qu'est-ce que t'as besoin de... Et elle était en bonne santé hier, elle sera en bonne santé demain aussi, qu'est-ce que tu crois? Alors il dit, le grand de Vilna, il s'inquiétait terriblement. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'Esther, c'est une grande sadéquette. Mais elle va se dégoûter d'Achashverosh. Elle risque de faire une crise cardiaque là-bas chez lui. Il avait peur qu'elle va faire une déprime. Elle va pas supporter cette histoire. Ou elle va carrément refuser qu'Achashverosh veut la toucher. Elle va refuser, elle va crier. Et Achashverosh, il va piquer une crise, il va lui couper la tête, comme il a fait à Vashti. Donc pour Mordechai, Esther était tout le jour en danger de mort dans cette histoire. C'est pour ça qu'ils seront signés tous les jours. Shalom Esther, comment elle va? Elle est encore vivante? On ne l'a pas encore coupé la tête? Il était inquiet. Et quand elle est rentrée chez Achashverosh, le texte dit, « Ubagi ator Esther, lo biksha davar, mais chutz masher yomar hegai srisamelach shomer anashim. » Elle n'a rien demandé, sauf ce que Hegai a exigé à titre du protocole. Ça veut dire quoi? Rashi explique que chaque fille, quand elle est partie chez Achashverosh, elle avait le droit de demander ce qu'elle voulait. La musique, un orchestre, des habits, la joie, une fête. On lui faisait une fête. Comment s'appelle la fête qu'on fait avant le mariage? Hein? Faut mettre un peu de trucs dessus. Aïné. À chaque fille, elle a fait un aïné. Avec musique. Comme ça, il dit Rashi. Quand il est arrivé le moment d'Esther, l'obikshad d'avoir, elle n'a rien demandé. Mademoiselle, vous voulez quelle musique? Vous voulez Mordechai ben David? Vous voulez... Non, du jazz, du rap? Non, je veux rien. Pourquoi la Megillah nous raconte ça? C'est pour nous enseigner quoi? Pour nous enseigner qu'Esther ne voulait pas aller? Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux pas aller. Alors pourquoi elle est partie? Parce qu'il y avait derrière des flics avec un couteau. Mademoiselle, vous avancez. Je suis obligé, sinon il me tue. Mais elle ne voulait pas. Tout ça, c'était contre son gré. En vérité, c'est archi dangereux de faire toujours la tête, être toujours passif. C'est Achashverosh, il peut s'énerver. Et quand même, elle plaisait à Achashverosh. Ça, c'est un grand nes. C'est un archi-nes, une femme qui fait la tête. En vérité, la Gemara nous raconte. Esther était belle ou elle était moche?
Elle n'était pas belle.
La Gemara nous dit elle n'était pas belle, elle était moche. Esther Yerak Rakot Haïta, elle était verte comme une tomate verte. Alors comment ça s'est fait qu'elle plaisait à tout le monde? C'est un miracle. Ça aussi fait partie du miracle. Elle était jeune ou elle était vieille? Hein? Si on se fie au dessin qu'il y a dans les Megillot, on dirait qu'elle est jeune. Or, elle n'était sûrement pas jeune. Parce qu'elle était la cousine de Mordechai. Tout le monde dit qu'elle était la nièce de Mordechai. Je ne sais pas d'où ça vient, mais dans la Megillah, c'est marqué qu'elle était la cousine. C'est marqué Esther bat Avichail d'od Mordechai. Elle était la fille d'Avichail qui était l'oncle de Mordechai. Donc, si elle est la fille de l'oncle, donc elle est la cousine. Et Mordechai, il avait quel âge? Mordechai, il avait minimum 80 ans. Minimum. Étant donné que le texte, il dit, Ishi Udi Haya Beshushan Ibira, Shmo Mordechai Ben Yermichi, Asher Hagla Mirushalayim, Im Hagola, Asher Oglata, Im Yechonia, Melech Yehuda. Ça veut dire qu'il est parti avec Yechonia, Melech Yehuda. Yechonia, il est parti 11 années. Avant la destruction du Beth Amikdash, il est parti en Babylonie. Cette histoire d'Esther, elle est 66 années après le Khorban. Et 11 années avant le Korban, Yechoni est parti en exil. Donc 66 et 11, ça fait 77. Il est parti à l'époque, donc il avait 80 ans minimum, ou 90. Elle était sa cousine. Elle était sa cousine. Probablement, elle n'avait pas que 18 ans. Une cousine entre un homme de 80 ans, c'est un peu étonnant, peut-être. Mais d'après les calculs de la Gemara, de toute façon, elle était aussi âgée. Étant donné que la Gemara nous raconte qu'il n'y avait plus des prophètes, des hommes qui sont nés après la destruction du Beth Amikdash. Tous les prophètes qui existaient au début du deuxième Beth Amikdash, ils sont tous nés avant la Korban du Beth Amikdash. Parce que, sauf, il fallait naître quand il y avait l'Aaron HaKodesh au Kodesh HaKodashim. Après la Korban, il n'y a plus de prophétie. Donc elle était prophétesse, donc elle est née avant le Korban. Et 66 ans, donc elle avait minimum 66 ans. Alors une vieille femme de 66 ans, en plus elle est moche, elle fait la tête, et elle plaît à Ahasuerosh, mais comment c'est possible? Et pas Ahasuerosh à tout le monde. Ça fait partie du Chut shel Chesed Mashuchalea, que Dieu il a fait qu'elle plaît. Ça fait partie du miracle. Mais nous allons revenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il organise qu'elle est obligée de se marier avec un goy. Mais pourquoi Kadesh Baruch Hu fait des choses comme ça? Mais le pshat, il est comme ça. En vérité, quel était le problème de Purim? Que Haman, il veut tuer les Juifs. Ça, un bon Dieu, dans 10 secondes, il règle l'affaire. Il tue, pot de banane, problème est réglé. Mais le problème est ailleurs, complètement ailleurs. C'est quoi? Le Beth Amikdash, il est détruit. Le deuxième Beth Amikdash doit être construit dans 70 années après. Or, il est marqué dans le Chumash, dans Parshat Bechukotai, que Moshe Rabbeinu il a averti que si les Juifs y font des Averot, s'ils ne veulent pas faire Teshuvah, alors il y aura le Korban. Et après, les Juifs vont partir en exil. Et qu'est-ce qui se passe après? Ils vont revenir en Eretz Israël, ils vont construire le deuxième Beth Amikdash, très bien. Mais il y a une condition. Il est marqué dans Moshe Rabbeinu, dans la Chumash Parshat Vayikra, Parshat Bechukotai, « Vitvadu et avonam, vet avon avotam, asher b'malam, asher ma'alu, asher al-choyim ibekeri. » Les Juifs vont faire un vidouille. Ils vont avouer leur péché. Ils vont pleurer, on a péché nous et nos parents. Hachem, il a attendu qu'il y ait un aveu des Juifs. Pendant le premier Beth Amikdash, ils ont fauté. Mais il n'y avait pas un aveu populaire, un aveu que tous les Juifs, ils pleurent pour leur averot. Comment ils se sont comportés en exil? Est-ce qu'ils ont fait Teshuvah ou ils n'ont pas fait Teshuvah? Sûrement, il y avait des individus qui ont fait Teshuvah, sans doute. Mais il est marqué dans le livre de Yechezkel Hanavi. Yechezkel, il parlait aux Juifs de Babel. Il leur a dit, maintenant que vous avez vu le Korban, maintenant vous pouvez faire Teshuvah, non? Quand vous étiez en Eretz Israël, vous n'avez pas cru qu'Hachem va vous mettre dehors. Vous n'avez pas cru que le Korban arrive. Vous étiez sûr, mais non, il ne va pas laisser détruire sa maison. Donc vous avez dit, on peut pécher, Hachem ne va pas le faire. Et maintenant il l'a fait, ça y est, maintenant vous pouvez faire Teshuvah. Qu'est-ce que les Juifs ont répondu? Maintenant, on ne fait pas Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'Hachem ne veut pas qu'on fait Teshuvah. De toute façon, il est fâché avec nous. Il nous a jetés dehors. Il a détruit son Beth Amikdash. Nos averot sont donc tellement grandes, il ne veut pas qu'on fait Teshuvah. Eh bien, on reste comme on est. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a navi? Il se disputait avec les Juifs. Il dit, vous vous trompez. Mais Hachem, il veut vite que vous faites Teshuvah. Qui leur a fait... Il ne veut pas que le rachat meure. Il veut que le rachat fasse teshuvah. L'Etzer Hara, en vérité, il est très malin. Il veut piéger les gens. Comment il piège les gens? Avant que les gens ils pêchent, il dit aux gens, c'est pas grave, Dieu il est gentil. Oh, ça va, un peu faire le contraire à Torah. C'est, tu crois vraiment qu'il est si méchant? Il est bon, Dieu, il est gentil. Comme ça dit Etzara. Alors si l'homme, il écoute les Etzara, alors il va pécher. après qu'il a péché, il pèse. Après, l'Yetzara Tov, il dit, ah, il faut faire Teshuvah. Maintenant, l'Yetzara, il prend une autre veste. Ouh là là, quel rasa que tu es, oi oi, quel voyou tu es, le bon Dieu, il t'aime pas, il te repousse, il est fâché. Mais non, ça sert à rien, de toute façon, tu peux pas faire Teshuvah, tu es trop grand rasa. Au début, il lui diminue le péché, et après qu'il ait péché, il augmente le péché pour le décourager. Les Juifs en exil, ils étaient découragés. Ils ont dit, Hachem ne veut plus de nous. Il est fâché. Et est-ce qu'il avait tout le mal pour les convaincre qu'Hachem, il veut qu'il fasse des choix? Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec les Juifs? Ils étaient en exil. Alors, ils étaient dans une population goy, dans une société goy. Nous, un Juif, quand il vit avec les goyim, il peut se dire, non, mais les tiens peuvent se marier des goyim aussi. Pourquoi je dois marier avec une femme juive? Ah, des femmes goyotes aussi. Alors, il marquait dans la Tanakh, il y a des juifs qui se sont mariés avec des goyotes. Alors, encore pire qu'à l'époque du Beth Amikdash. Quand Achashverosh, il a organisé son festin, alors il y a beaucoup de juifs qui sont partis au festin. Quand ils sont partis, il a marqué qu'il y avait plein de bêtises. Il les a saoulés, ils ont bu du vin, et ils ont perdu la tête. Il y en a 18 500 juifs qui ont fait des bêtises. Alors, ce n'est pas devenu meilleur. Mais dans quelques années, il faut construire le Beth Amikdash. Et les juifs, pas seulement ils ne font pas Teshuvah, encore le contraire. Il y a quelque chose, il attend qu'il y ait un vidouille. Ça, c'est le problème qu'Hachem il avait. Maintenant, comment on peut amener les juifs à faire vidouille? Ils pensent qu'ils sont foutus. Ils pensent que c'est perdu pour perdu. Comment tu parles à quelqu'un qui pense perdu pour perdu? Comment on peut encourager quelqu'un de faire Teshuvah? Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est marqué dans la Mishnah, dans le Masechet Sota. La Mishnah, elle raconte toute une manière pédagogique comment amener quelqu'un à ce qu'il avoue qu'il a fauté. Quelqu'un qui ne veut pas avouer qu'il a fauté, mais il a bien avoué. Il a bien fauté. Pour qu'il avoue, pour qu'il fasse des chouvas. La Mishnah nous dit comme ça. Un homme qui soupçonne sa femme. Il soupçonne que sa femme est infidèle. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa femme et part à Yerushalayim. Il vient chez le Kohen au Beth Amikdash. Et j'ai des soupçons. Je ne sais pas si je peux faire confiance à ma femme. Alors le Kohen dit, madame, vous allez boire là-bas. Il y a un whisky spécial. Vous allez le boire. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous avez fauté, vous allez mourir. Aïe, je ne veux pas mourir. Si vous n'avez pas fauté, vous n'avez rien à craindre. Ah, très bien, je ne peux pas fauter. Alors le Kohen dit, vous n'avez pas fauté? Non, je ne peux pas fauter. Alors buvez, madame. Mais elle va boire, si elle a fauté, elle va mourir. Ah, Kohen, il a pitié. Ah, je ne veux pas qu'une femme, elle meure. Il dit, vous savez qu'il y a une troisième solution, madame. C'est quoi? Vous avouez que vous avez péché, mais comme il n'y a pas de témoin, on ne va pas vous faire du mal. Vous avouez que vous avez péché, votre mari va vous divorcer, un problème est réglé. Après, vous faites Teshuvah devant Kadesh Baruch Hu. Nous, les tribunaux terrestres ne vous font pas de mal et vous vous arrangez avec Kadesh Baruch Hu. Et vous ne mourrez pas. Vous ne buvez pas, vous ne mourrez pas. Mais il faut que vous avouez. Elle dit, non, moi, je n'avoue pas. Si vous n'avouez pas, avouez pas, vous êtes obligé de boire. Eh bien, je bois. Mais peut-être elle a fauté. Alors le Kohen, il se trouve devant un problème. Il y a une femme, elle est trop fière d'avouer. Peut-être elle a fauté, elle est trop fière d'avouer. Elle va malheureusement mourir. Mais je ne veux pas qu'elle meure. Alors il faut que je la fasse avouer. Comment faire? Alors la Mishnah nous dit quelque chose de très intéressant. D'abord, le Kohen, il dit, vous savez, même si vous avez fauté, vous n'êtes pas entièrement responsable. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est possible que vous avez des mauvaises voisines. Peut-être que vous avez bu du vin, vous avez un peu perdu la tête. Peut-être que vous avez il y a des amusements là-bas dans votre quartier. Vous êtes laissé entraîner, c'est les autres qui vous ont entraîné. Et vous n'êtes pas vraiment fautif. Même si vous avez fauté, on peut enlever 50%, 80% du péché. C'est pas vous que vous êtes fautif. Ah bon? Pourquoi le Kohen dit ça? Parce que quand quelqu'un, il doit avouer une faute, mais c'est une immense faute, il est trop fier de le faire. Mais si on me dit, bon, c'est comme en classe, un enfant, il a fait une bêtise. L'année dernière, dans une école, et un enfant, il a jeté une bulle puante. Bon, c'est les écoles des filles, ça n'existait pas. Alors le prof, il a dit, qui est-ce qui a fait ça? Ah, il peut s'attendre, il va te renvoyer un jour ou deux jours, je ne sais pas. Alors, personne ne l'avoue. Et si le prof dit, écoutez, si quelqu'un il a mis, mais un autre qui l'a acheté, il sera que 50% fautif. Et si c'est une tierce personne qui lui dit, vas-y, fais-le éclater, alors je vais partager en trois. Ah bon, alors si on est renvoyé, si on a fait, donc je ne renvoyais que 2 heures. Voilà. Alors c'est plus facile, oui, lui il a acheté, lui m'a dit, lui un truc, alors j'avoue, moi aussi j'ai fait un petit peu. Bon, ça c'est plus facile. Donc ça, c'est la première méthode que le Cohen, il fait. Il essaye de lui enlever le poids de la responsabilité. Mais si ça ne marche pas, si elle continue à dire « non, je ne vais pas fauter », alors le Cohen, il met la vitesse numéro 2. Il dit « vous savez, je vais vous avouer un secret. Il y a des grandes tzadikim du peuple juif qui ont aussi fauté. Des grandes tzadikim. Qui a fauté ? Eh bien, Yehuda, il a fauté avec Tamar. Et Rouven, il a fauté. C'est vrai ? Et alors, comment elle finit l'histoire ? Eh bien, ils ont fait teshuva. Ils ont avoué. Ils ont demandé pardon. Et ils ont gagné ce monde et l'autre monde. Après, la Mishnah nous dit, en vérité, cette femme ne mérite pas d'entendre de telles comparaisons. Parce que les tzadikim qui sont marqués dans la Tanakh qui ont fauté, il s'agit d'autres sortes de fautes. Il s'agit des choses, des situations très spéciales, avec des calculs très spéciaux, et la faute n'est pas comme nous en comprend. Elle ne mérite pas qu'on compare sa faute avec la faute des tzadikim. Ça, c'est dans un cas normal. Mais comme nous nous trouvons devant une situation de crise, elle risque de mourir, nous sommes obligés de tout faire pour lui essayer de sauver la vie. Alors donc, on salit entre guillemets des tzadikim, afin qu'elle se dit, ah bon, Yehuda, le fils de Yaakov, il a fauté. Il a avoué, il a fait teshuva, Hachem lui a pardonné. Bon, alors si c'est comme ça, bon, alors j'avoue, j'ai fauté. Eh bien, j'ai fauté, je demande pardon. Et le problème est réglé. Donc la Mishnah nous raconte qu'il faut aider aux gens qui ont fait les Averot, de leur enlever d'abord un peu de la responsabilité. Ce sera plus facile. Et après, de faire des comparaisons osées. Des tzadikim aussi, ils ont fauté. Donc, vous aussi, vous avez fauté. Vous faites comme eux, et après, vous faites teshuva. Ils ont fait teshuva, vous allez aussi faire teshuva. Alors, aussi, il va faire teshuva. Ça, c'est ce qu'on fait avec la femme Sota. Maintenant, nous allons revenir à l'histoire de Pourim. On a ici un peuple juif qui était, à l'époque du premier Tmikdash, et ils ne se sont pas comportés bien, et les prophètes sont venus, un prophète après l'autre, fait teshuva, et ça ne marche pas. Et jusqu'à, il y a la destruction. Et les Juifs, ils sont jetés en exil. Il arrive le prophète Yéhézkel, allez-y, fait teshuva, mais non, il ne veut pas de nous, de toute façon, on est foutus. Ça ne sert à rien, il ne veut pas de nous. Aïe, 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 comment on va faire que les Juifs ils fassent teshuva? Qu'est-ce qu'il fait à Kadesh Baruch Hu? Il dit, moi je vais faire comme le Kohen il fait au Beth Amikdash. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends Esther, la plus grande tzedekette qui existe dans le peuple juif. Et je vais la faire marier à un goy. Les juifs vont dire, quoi? Waouh! Une femme, c'est là, vendue qu'elle est. Elle veut devenir la reine. Pour denier d'argent, elle se vendue et fait le plus grand péché de se marier avec un goy. Comme ça, les juifs, ils vont dire. Ils ne savent pas qu'en vérité, ce n'était pas comme ça. Il y avait un fusil derrière. Si tu vas passer à Hashverosh, on te tue. Elle était tous les jours malade de ça. Mais elle ne pouvait pas faire autrement. Mais pas tous les gens, ils savent qu'est-ce qui se passait. Et ils savent, une femme juive, elle est la cousine du plus grand Chacham. Elle peut devenir la reine, elle gagne d'argent et de l'honneur, elle est dans la palais royal. Ah, voyelle qu'elle est. Qu'est-ce qu'il se passe? Elle sauve le peuple juif. D'un coup, elle sauve le peuple juif. Alors les juifs, ils disent, tiens, mais Akadosh-Baruch, il n'est pas content d'elle. Mais c'est une voyelle. Comment Hachem, il est content d'elle? Ça veut dire que quoi? Qu'elle a fait Teshuvah sur moi. Sur moi, elle a fait Teshuvah. Et du moment qu'elle a fait Teshuvah, hein, où elle est dans une situation difficile, où elle ne peut pas faire autrement, il y a quelque chose qui nous échappe. Mais en fin de compte, Hakadosh Baruch Hu quand même, il tient compte d'elle et il permet à Esther de sauver le peuple juif. Ça veut dire le moral de l'histoire. Il y a des circonstances spéciales. Que quelqu'un, malheureusement, il a péché, Hakadosh Baruch Hu aussi, il aime quand même. Il fait sauver le peuple juif travers lui. Donc nous, moi, le simple juif, tous ces simples juifs qui ont péché, ils ont dit, moi aussi, si je fais Teshuvah, Hakadosh Baruch Hu, il m'accepte. Hakadosh Baruch Hu, il voulait inciter les juifs qu'ils fassent Teshuvah. Grâce à cette histoire, ils ne savent pas comment c'était avec Esther. Elle a voulu, elle n'a pas voulu, la moitié voulu. Mais en tout cas, elle était dans une sale histoire. Et Hakadosh Baruch Hu, il a dit, bon, je vous pardonne et je vais vous sauver grâce à cette femme. Donc les juifs vont dire, bon, d'accord, on peut faire Teshuvah. Hakadosh Baruch Hu nous accepte même. Après tout ce qu'on a fait.
Juste pour ça qu'il a fait marier avec Aravanche.
Juste pour ça, parce que c'est pas beaucoup, non, ça. Rendre tous les juifs Betchouva, c'est pas. Mais juste pour ça, un... c'est pas un petit.
C'est pas un petit quelque chose, mais on a dit qu'on n'a pas le droit de faire. La fin justifie pas les moyens.
C'est juste. La vérité, elle était qu'elle était obligée. La vérité, qu'elle n'a pas fauté.
C'est qui a mis cette situation finalement.
Ouais. Donc en vérité, elle n'a pas fauté parce qu'elle était en danger de mort. Chaque fois quand elle est rentrée dans la chambre d'Achashverosh, elle ne voulait pas venir. Ils sont venus avec les fusils. Madame, allez-y, allez-y, sinon je coupe la tête. Alors elle est rentrée. Et là-bas, elle a resté comme un bout de bois. Donc en vérité, elle n'a pas fauté parce qu'elle était en danger de mort. Mais les Juifs ne connaissent pas tous les détails. Il n'y a pas des films pour savoir comment ça se passe. Alors les Juifs, ils ont dit, bon, Esther, à un moment, elle n'était pas très nette. Mais bon, elle a fait Tchouva. Mais c'est ça qu'Hachem a voulu. Vous dites, juste pour ça. Mais juste pour rendre tous les Juifs de Tchouva, c'est juste pour ça. Quoi, c'est un petit café, ça?
C'est
ça,
c'est pas petit, mais...
Mais c'est, elle a rendu les Juifs de Tchouva grâce à ça.
Il n'y a pas un autre moyen, moi, je veux dire.
Alors, il y a un autre moyen. Alors, proposez-vous un autre moyen. Voilà. Tous les prophètes, ils ont essayé de rendre les Juifs Betchouva, et ça a bloqué. Et en disant, Bavel, ils sont désespérés. Quand on parle avec un homme désespéré, quand on parle avec quelqu'un qui croit qu'il ne peut plus faire Teshuva, c'est très difficile. Vous avez déjà vu des gens qui sont drogués, ou qui... Et tu veux leur parler, arrêtez de se droguer. Mais je ne peux pas arrêter. Oui, il faut arrêter, mais je ne peux pas. Mais sinon, tu vas mourir. Mais je ne peux pas. Il y a des gens qui fument une cigarette depuis 20 ans. Le médecin leur dit, si vous continuez à fumer, ben maintenant, vous avez un cancer des poumons. Mais je ne peux pas arrêter. Pourquoi? Mais je ne peux pas. Les types, ils sont désespérés. Il y a des situations tragiques. Et il faut être un grand, grand, grand pédagogue pour essayer de les tirer de l'affaire. Mais j'ai fait tellement vos cadavres. Oh, ça ne marche pas. Ce Yetzer Hara, il est très, très grand. Il est autant grand que le Yetzer Hara avant le péché. Il dit, c'est rien, c'est pas grave, tout le monde fait des Averot. Après les Averot, tu es trop pécheur, on ne veut plus de toi. Il y a beaucoup des enfants qui sont en classe, pas vis-à-vis des péchés. Je suis nul, jamais j'arriverai. Je suis nul, je vais rater tous les examens, je suis un nul. Et comment leur donner courage? C'est un grand problème. C'est pas du tout facile. Et ici, Hachem, il a tous les juifs et il se décourage. Il faut leur donner du courage. Alors, il fallait raconter même des tzadikim, ils ont fauté. Comme cette femme Sota. Vous savez, Yehuda aussi l'a fauté. Reuven aussi l'a fauté. On salit Yehuda et Tamar, le plus grand tzadikim, simplement pour donner du courage à cette femme qu'elle s'est dit. Yehuda, il a fauté. Lui, il a fauté. Lui, il a fauté. Et ils ont fait tchouva. Bon, j'avoue, j'ai aussi fauté. Eh bien, je fasse Tchouva. eh bien, il faut encourager les gens. Donc, Hachem, il y a pire que ça. Je vais ajouter quelque chose. Il y a un Gemara dans Masechet Sanhedrin. Elle dit, les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Après, ils ont fait Teshuva. D'accord, très bien. Pourquoi les Juifs, ils ont fait le veau d'or? Parce que les Juifs, c'est quoi? C'est des gens légers. Oh, c'est des petits voyous. La Gemara nous dit pas du tout. Les Juifs n'étaient pas des voyous. Les Juifs, ils étaient costauds, dirait Shamayim. Alors, comment ça se fait qu'ils ont fait le veau d'or? Parce qu'Akadosh Baruch Hu leur a mis un Yetzara de folie, folie, folie. Hachem les a poussés dans le péché. Pourquoi? La Gemara nous dit, Hachem les a poussés dans le péché. Et quel intérêt Hachem il a que les Juifs, ils pêchent? C'est que, qu'ils fassent Teshuva après, ils vont montrer au monde entier qu'on peut faire Teshuva. Hachem les a poussés. Ils n'étaient pas obligés de fauter. Ils n'étaient pas obligés, mais presque obligés. Il était intéressé qu'ils fassent le Hegel et qu'ils fassent Teshuva. Et après, chaque juif qui pêche, il dit, je suis perdu. Tu n'es pas perdu. Hachem, il a pardonné aux juifs qu'ils ont fait le veau d'or. Tu peux aussi faire Teshuva. Hachem te pardonne. Mais la Gemara le dit aussi sur David HaMelech. David HaMelech, il a fait une bêtise avec Bathsheba. La Gemara demande, David HaMelech était un homme faible. Quand il ne pouvait pas repousser les Tzara, la Gemara dit, bien sûr, il aurait pu. Et alors pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'Hachem, il lui a augmenté les Tzara comme un fou, parce qu'Hachem, il voulait qu'il pêche. Comme ça, David HaMelech, il a fait Teshuva, il a montré à tout le monde comment fait Teshuva. Beaucoup des chapitres d'Itil, et il a pleuré, comment il a fait les vidouilles et tout. Il a montré à tous les Juifs comment fait Teshuva. La Gemara pose la question, mais pourquoi il a fait pour les Juifs au Hegel et pourquoi il a fait pour David? Ça suffit une fois. La Gemara nous dit non, David c'était un individu et le peuple juif c'est le peuple entier. Si ça a été le peuple entier qui a fauté, alors un individu il va dire, moi je ne veux pas que je fasse Teshuva. Eux ils ont tous fait Teshuva, alors ça Hachem il a pardonné. Mais un homme seul qui fait Teshuva, ça ne sert pas. Donc Hachem était obligé que David et Melech y faute. Et si ça avait été que David et pas les Juifs de Hegel, alors les gens, ils auraient dit, un individu qui faute, il peut faire Teshuva, Dieu pardonne. Mais si c'est toute une communauté qui a fauté, c'est trop grave, ça ne sert à rien de faire Teshuva. Donc Hachem, il a fait deux fois ça. Tous les Juifs y faute avec les Hegel, et un individu seul faute avec David Bathsheba. Et les deux font Teshuva, comme ça, soit un individu, soit un tzibour, tout le monde disait, Hachem, il accepte la Teshuva. Donc on voit qu'il y a des choses très intéressantes dans ce qu'Hachem, il fait. Hachem, il ne veut pas qu'on faute, et parfois, il veut, oui, parce qu'il veut montrer la grandeur de la Teshuva, qu'on peut vivre, revenir. Donc ça, c'était l'histoire, comment l'histoire de Pourim maintenant. Cette histoire de Pourim, qu'est-ce qui s'est passé après l'histoire de Pourim? Le texte, il dit que les Juifs sont retournés tout de suite après à Yerushalayim. Quand ils sont venus à Yerushalayim, Ezra Sofer, ils étaient au Beth Amikdash, sont arrivés des gens à Ezra, chez Ezra, ils ont dit, vous savez, il y a des Juifs mariés avec des goyotes. Ezra, il a entendu ça, il a dit, quoi? Des Juifs mariés avec des goyotes. Il a déchiré ses habits, il s'est mis à pleurer, il a fait un vidouille, mais qu'est-ce que c'est ça? On a fauté à l'époque du premier Beth Amikdash. Les prophètes, ils ont parlé, ça n'a rien servi. Et nous a détruit le Beth Amikdash. On est parti en exil. On revient, et on revient avec des coyotes. Oh, il va. Il se met à crier, à hurler. Il est marqué, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, ils se sont mis autour d'Ezra. Et tout le monde, il s'est mis à pleurer comme jamais les Juifs, ils ont pleuré. Et ils ont fait Teshuva. Ils ont décidé qu'ils vont renvoyer ces femmes. Il y avait une transformation. Mais cette transformation, ce vidouille, est intervenue à quel moment? Après l'histoire des Pourim. Ce que Moshe Rabbein, il a prévu, Vihit Vadou, et Avonam, et Avonavotam, Maala, Mashema, Loubi, les Juifs ont avoué leurs péchés et les péchés de leurs parents, ils ont avoué. Après l'histoire des Pourim. Cette histoire du Pourim leur a donné l'envie, leur a donné l'espoir, leur a donné la confiance, leur a donné La vision qu'Hachem, il les aime. Et il veut qu'ils fassent teshuvah. Et il pardonne. Et même Esther, il a pardonné. Comme ça, c'était dans la tête des gens. Ils ne savaient pas qu'elle était obligée. Mais ça a été le déclencheur pour donner courage aux Juifs.
Il y a déjà eu deux exemples avant. Pourquoi il a fait...
Quoi?
Vous avez dit qu'il y a eu deux exemples après le Rat Egel et avec David. On a dû refaire encore une fois un exemple pour montrer que...
Parce qu'il ne voulait pas faire teshuvah. Ce n'est pas pour un exemple. Ces exemples n'étaient pas suffisants parce qu'ils ne faisaient toujours pas teshuvah. Ils croyaient qu'ils sont perdus. Il fallait encore un encouragement. Quoi?
À notre époque, il n'y a plus ça. Hachem n'a pas à reprendre une autre personne pour nous donner l'exemple, pour qu'on fasse teshuvah. Pour ceux qui sont découragés.
Peut-être oui. Nous, vous savez. Peut-être il le fait aussi, mais aujourd'hui... Il y a beaucoup de gens qui font teshuvah aujourd'hui. Et des fois, ce sont des gens très bien. Qui sont peut-être, ils étaient presque pas fautifs quand ils ont fauté. Et donc, ils encouragent les autres. Peut-être ça existe aujourd'hui aussi. Des gens qu'on voit qui fassent teshuvah et qui font teshuvah. Et Hachem peut-être les a poussés dans le péché pour qu'ils montrent le chemin. Il y a aujourd'hui des gens extraordinaires. Quand ils étaient jeunes, ils étaient à côté de la plaque. Parce qu'ils ont cherché le péché, peut-être. Ou parce qu'Hachem les a poussés dedans, peut-être. Peut-être. Peut-être il y a des tzadikim qui fautent et qui font teshuvah et ils encouragent les autres. Peut-être ça existe aujourd'hui aussi. Observer, je ne sais pas, il faut observer tous les gens. Vous observez des gens, vous dites celui-là, il a fait teshuvah, c'est vrai, il y a 10 ans avant, il était pas comme ça. Il a fait des averot, il a fait teshuvah, c'est bien. Peut-être c'est aussi, peut-être Hachem l'a fait pour encourager les gens. On va savoir, je ne sais pas.
Mais dans l'histoire de la sota,
oui.
Si ça se trouve, la femme, elle n'avait pas fauté.
Oui.
Pourquoi il n'y avait aucun moyen de savoir.
Non.
Donc il était prêt à prendre le risque.
Quel risque?
Le risque de parler de Yehuda et de David.
Oui.
Alors que si ça se trouve, en fait, ça ne servait à rien parce qu'elle n'avait pas fauté.
Oui. Eh bien, il prend le risque, il parle mal pour rien. Mais comme il ne sait pas le Cohen, pour peut-être il a fauté et ils vont lui sauver la vie, donc on salit les tzadikim. Et sinon, eh bien, que Yehuda, il nous pardonne. Et peut-être Yehuda, il a fauté pour ça. On va savoir. Comme Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de chemins, des choses bizarres qu'il fait. Il a mille raisons pourquoi il fait comme ça, nous on croit, on comprend comme Hachem il prend les décisions. Comme on dit, les chemins du Seigneur sont impénétrables. Kilo derachai darchechem, velo marchevotai marchevotechem nous Hachem. Vos chemins sont pas mes chemins, vos pensées sont pas mes pensées. Les hommes ils ont des pensées, comment l'homme il doit raisonner, mais qu'il aurait pu raisonner autrement. Pas comme les humains, il a d'autres calculs, il voit les choses, pas comme nous voyons les choses.
Mais il y a où le libre-arbitre si Hachem il pousse à la faute?
Quoi?
Il y a où le libre-arbitre si Hachem il a poussé à la faute?
Parce qu'il pousse pas définitivement.
Oui, mais
il suggère la faute, pas définitivement.
Il est plus fort, donc le libre-arbitre il est moins élevé.
Oui, mais il faut être fort, ça veut dire il faut plus de résistance. Des fois, deux personnes ici disputent. Je te pousse pour que tu tombes ici. Mais toi, fais attention, ne tombe pas. Hachem, il pousse, mais il pousse contre Hachem. Hachem, il veut qu'on pousse contre lui. Hachem, il envoie Yetzarara. Hachem, il augmente Yetzarara pour pousser l'autre. Mais toi, tu n'as pas le droit de fauter.
Alors, il faut que nos forces augmentent aussi.
Quoi?
Il faut que nos forces augmentent aussi.
On a des forces, si on veut, on trouve. On a de nous, chez nous, des forces, mais il faut les utiliser. On a des forces pour résister. Hachem n'oblige pas à fauter, mais il peut pousser. Mais il faut que tu trouves chez toi de la force pour résister. Mais si l'homme n'a pas résisté, il a un calcul derrière. Bon, tu n'as pas résisté. Ça y est, maintenant tu dois faire tchouva. Vas-y, fais tchouva. Non, vas-y. Mais c'est ça que j'ai voulu. Sur David et Melech, vas-y, montre maintenant à tout le monde comment on fait Teshuvah. C'est pas une permission pour David de fauter, c'est pas une permission pour les Juifs de faire les guêles. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut raisonner. Baruch Hu, il peut raisonner comme ça. Pas comme les gens, ils raisonnent. Hachem, il a d'autres chemins. On va demander, est-ce que, je sais pas quoi, est-ce que Hitler, il avait le droit de tuer les Juifs? Non. Mais est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a quelque part permis? Oui. Mais comment Akadosh Baruch Hu permet? Pour nous, il permet pas de tuer des Juifs. Oui, mais lui, il n'est pas nous. Est-ce qu'il pleut Shabbat? Oui. Mais on a le droit d'arroser des plants de Shabbat? Comment Akadosh Baruch Hu fait pleuvoir Shabbat? Hein? Il n'est pas juif, lui. Lui, il a le droit. Mais Akadosh Baruch Hu aussi, il a fait Shabbat, c'est marqué. Pas une affaire, il a fait Shabbat. Oui, mais lui, il a le droit. Et il y a l'accident de voiture, Hachem, il est derrière. Mais on a le droit de faire un accident de voiture? Non. Et Hachem, laisse-le, lui, il fait autre chose. Lui, il fait les choses comme lui, il fait. Nous avons un Shulchan Aruch, nous avons une Torah, nous n'avons pas le droit de tuer. Mais Hachem, s'il veut tuer, il peut tuer. Nous n'avons pas le droit de détruire une maison. Et quand il y a une tempête, une maison s'écroule. C'est bien Hachem qui a fait la tempête. Alors Hachem, il a fait écrouler les maisons. On a le droit d'écrouler une maison? On n'a pas le droit. Si nous, si on casse une maison, on doit payer. Mais Hachem, il n'est pas comme nous. Lui, il a le droit. Sur quoi il a le droit? Il sait qu'est-ce qu'il fait. Alors, des fois, il fait des choses comme ça, des comme ça. Il fait toutes sortes de manipulations. Pour Rimsameach. Merci beaucoup d'être venu.